France Culture.
Quand j'ai découvert en fait les futures crises écologiques qui étaient déjà présentes mais qui sont vraiment massives aujourd'hui, j'ai commencé à me renseigner, à lire des études, à comprendre. J'ai commencé à paniquer, à me rendre compte que waouh, en fait on va vraiment se prendre ça et en fait ça va être ça mon avenir. Du coup ça crée beaucoup d'anxiété. Et après, il faut en ressortir, se dire ok, il se passe ça, on va gérer, on va faire face à de l'incertitude et ça va aller. Donc au début, t'as envie de changer les choses par toi-même, alors tu fais des petits trucs chez toi, tu vas faire ta lessive toi-même, arrêter d'acheter du neuf, etc., etc. Vous êtes dans la phase de je vais faire mes éco-gestes. Ben moi, à ce moment-là, j'étais extrêmement jugeante de mes proches. Et je leur dis, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu prends encore l'avion? Mais t'es malade ou quoi? Enfin, tu te rends compte? Et puis, au fur et à mesure où t'avances dans tes réflexions, tu te rends compte que, au-delà de la dimension individuelle, t'as la dimension collective. De se dire, mais en fait, ok, il y a moi qui change mes manières de faire, mais en fait, si les entreprises, si les institutions, ne changent pas, en fait, on pourra pas faire bouger vraiment ce système et faire en sorte que on consomme moins, par exemple. Et, ça crée des tensions. Et du coup, un des moyens pour s'en sortir, c'est de faire corps avec d'autres gens qui ont les mêmes convictions que soi, de se rassurer, de se dire qu'on est ensemble, qu'on va pouvoir peut-être changer les choses. Et donc, quand on passe par toutes ces étapes-là, le discours qu'on a en fait à des gens qui sont en face de nous, c'est fait comme nous, parce qu'en fait, il faut qu'on soit tous dedans. Du coup, si on fait ensemble, et si on agit sur un territoire, et si on se dit qu'en fait, on peut œuvrer collectivement à un endroit, là, on y va, mais genre à fond les ballons, quoi.
Écologie et résistance. Épisode 3. Fin du monde, fin du mois, même combat. Une série documentaire de Pauline Mocor, réalisée par Cécile Lafont.
Joigny, c'est à 1h15 de Paris en train. Il y a des trains toutes les heures, donc c'est très pratique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à Paris, qui soient des gens plutôt dans la vibe écolo ou artistique, qui cherchent à sortir de Paris, par exemple, et qui se disent où est-ce que je peux atterrir assez facilement.
Judith Hennes, coordinatrice de l'association Convergence des Possibles.
Parce que j'ai peur dans un futur proche que si je reste à Paris et qu'il y a une crise écologique massive et qu'il n'y a plus de moyens de s'approvisionner sur Paris, en fait, on a une résilience qui n'est pas dingue. Et donc, on préfère aller à la campagne, créer un réseau de personnes déjà en qui on peut avoir confiance. Et il y a toute une culture autour des gens qui sont arrivés, je dirais, après le Covid. Et là, tous ces gens, ils sont plutôt convaincus qu'il faut cultiver au maximum l'autonomie alimentaire, énergétique, etc. Et donc, les acteurs qui font partie de ce réseau sont très porteurs de cet imaginaire, quoi. Dans la tendance générale, c'est plutôt des jeunes qui sont issus... Alors, j'ai pas du tout envie de dire de bonne famille parce que c'est vraiment pas tout le temps le cas, mais en tout cas, on n'a pas trop de grosses difficultés financières. Il y en a qui sont très aisés, il y en a qui sont OK et qui sont aussi OK de vivre avec un chômage ou un RSA pendant plusieurs années. C'est un choix. Donc, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. On est OK de vivre au RSA parce que je pense qu'on a des backups potentiels et donc une sécurisation par rapport à l'argent qui est due à d'où on vient. C'est des gens, en général, qui sont très diplômés. Par exemple, moi, j'ai fait une école de commerce, qui aiment beaucoup réfléchir, qui aiment beaucoup lire. Ils sont vraiment dans un imaginaire de comment on réinvente des récits autour de l'écologie, comment on arrive d'arrêter d'être moralisateur en fait, dans l'écologie, et comment on essaye d'incarner une forme d'écologie joyeuse, festive, qui donne envie, et de se dire, mais en fait, on peut vivre de manière sobre, et ça peut être vraiment super chouette. Et du coup, on se donne à 1000%. Moi, c'était ça. Il y a 4 ans avec mon asso, c'était que de bonnes intentions. C'était, je vais faire en sorte qu'il se repasse des trucs dans les villages. Mais on y va. Tu te lances dans un projet. Je sais pas, une association qui travaille sur le compost, un atelier d'autoréparation de vélos. Il y a un café associatif, il y a une ressourcerie de l'enfance. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs. Il y en a plus d'une trentaine qui sont répertoriés. Et chacune des associations a parfois plusieurs projets. Donc ça fait vraiment une grosse effervescence.
Dans le le cadre des projets qu'elle accompagne à Joigny, Judith Hennès a rencontré le brocanteur Jean-Marc Marcel. Elle nous conseille de lui rendre visite. Nous prenons la voiture pour Béhon, à 10 minutes de Joigny. Le hangar de la brocante est en plein champ. Jean-Marc a 58 ans, il est né à Béhon, il a grandi à Béhon et il ne s'imaginerait pas vivre ailleurs ni autrement. Il a besoin de la forêt où il marche plusieurs heures chaque jour et où il prélève de quoi se chauffer et de quoi se nourrir.
Moi, je vis au milieu, j'ai une maison qui est un peu dans un hameau, un peu isolée. Tout le matin, je me lève, je vois que les champs ou les bois, où je regarde les oiseaux, les chevreuils, des fois les sangliers. Et ça, c'est un essentiel pour moi. Vivre dans ce milieu-là, c'est... Je me ressource. C'est notre mère nourricière, en fait. Quand vous allez aux champignons, vous allez ramasser, je sais pas, aux escargots, vous pouvez aller ramasser des fruits sauvages, des fraises, des bois, vous pouvez... Elle nourrit la forêt. Alors aujourd'hui, en campagne, on connaît la nature. La nature, comme je vous l'ai déjà dit, ça nous nourrit. Donc à partir du moment que quand quelque chose vous nourrit, vous en prenez soin. Donc j'ai encore quelques personnes qui m'autorisent à aller dans leur forêt récupérer le bois mort. Mais c'est, voilà, juste pour le chauffage, déjà, c'est une ressource, une des ressources importantes.
Si Jean-Marc Marcel regrette que la loi n'autorise pas la récolte du bois mort en forêt, c'est parce que le glanage, c'est son éthique. Côté professionnel, il pratique de même, en débarrassant les maisons des meubles pour les revendre à ceux qui en auront besoin. C'est dans son entrepôt qu'il nous reçoit.
Un bric-à-brac où tout s'entasse, où on met des vies de gens dans un local et qui repart dans une seconde main. C'est le but de la manœuvre, de faire repartir les objets au mieux de les détruire. Ça évite d'avoir des meubles qui viennent de l'autre bout du monde et puis ça reste local. On recycle, voilà. On est des écolos.
Jean-Marc se dit curieux et ouvert. Alors quand il entend parler de la Casbah, c'est tout naturellement qu'il décide d'y aller. C'est d'ailleurs dans cet écosystème de la Casbah qu'il rencontre Judith Hennès. Il y retourne parce qu'il aime bien savoir ce qu'il s'y passe. Il s'intéresse à ce tiers-lieu et aux gens qui gravitent autour. Ceux qu'il appelle, sans vouloir offenser, les écolos bobos.
Un jour, j'arrive donc à la Casbah qui est sur Joigny et je vais là-bas pour leur donner des meubles. Parce qu'en fait, des matelas, des sommiers, quelques meubles qui étaient à restaurer, parce qu'ils ont besoin. Ils accueillent des gens et je trouve ça que c'est... Voilà, on a besoin de s'entraider aujourd'hui. Et là, je rencontre un petit jeune, je me mets à discuter. Et puis en même temps, je lui dis si ça vous intéresse d'avoir du gibier. Je leur propose pour qu'ils puissent manger, comme c'est un peu le côté où ils hébergent certaines personnes et tout. Je me suis dit... Et là, il me dit non. Nous, on est végétariens. Alors, je dis bon, bah, voilà. Il m'a dit, et puis, il m'a fait un grand discours sur la chasse. Fait un discours en me disant que aujourd'hui la nature, on détruit presque, les gens de la campagne ne comprennent plus rien, on détruit la nature. Alors je lui dis, mais attendez, nous on la détruit pas. La chasse, on a besoin de la chasse. Ça régule la chasse. Sinon après on envahit de cervidés, ces cervidés mangent les nouvelles pousses d'arbres. Il m'explique qu'il ne faut plus voyager en avion. Je dis, dans les Andes de la campagne, ils n'ont pas voyagé beaucoup en avion. Moi, je ne connais pas grand monde qui part. Alors, on est peut-être parti deux, trois fois dans notre vie faire un petit tour d'avion, mais on n'a pas été à l'autre bout du monde. Et vous les voyez. Alors, ils vont dans les magasins, comme je dis, ils vont dans des magasins équitables, acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde en se donnant bonne conscience. Je trouve ça m'agace. Alors ce petit jeune en plus, ce qui me fait bien rire, c'est qu'il a un ordinateur Apple qui a fait tout le tour du monde pour être construit. Il me dit à moi que je suis pas que la nature, ou que je suis pas écolo ou que je détruis la nature. Je me dis mais je suis tombé sur la tête. Je me dis à 20 ans, si tu penses comme ça, ta vie, c'est pas toi qui vas nous protéger notre nature. Hein. C'est pas devant un ordinateur et puis en mettant deux dépliants ou en mettant un article disant qu'on détruit la nature ou en mangeant trois graines qui viennent de l'autre bout du monde. qu'est-ce qu'il nous propose.
Donc ça vous a refroidi, quoi.
Ah ben du coup, oui, très refroidi, et puis voilà, maintenant ben, je ne vais plus là-bas et je leur donne plus rien. C'est dommage parce qu'il y a des bonnes personnes dans ce milieu et on a besoin d'échanger de données. Et on en a besoin aussi, hein, parce que c'est quand même beaucoup eux qui recyclent les meubles, hein, quand même. Il faut reconnaître là-dessus, je leur donne ce côté où ils ont ce côté de recycler, de revenir plus que chez nous dans les campagnes. Mais nous, les campagnes, le problème qu'il y a, c'est que dans nos campagnes, on n'a connu que des vieux meubles, ils recyclent plus que nous. Ça, je le reconnais.
Donc c'est vos clients ?
Ah oui, c'est mes clients, tout à fait. Je ne vais pas cracher sur mes clients. Il faut pas, parce qu'il y a l'extrême des colos. Et il y a l'écolo qui comprend, qui s'intègre dans la campagne.
Je pense que la rencontre, elle est assez partielle entre les gens qui arrivent sur le territoire et les personnes qui ont grandi ici ou qui sont là depuis plus de 20 ans. Quoi.
Judith Hennes.
Il y a des gens qui disent « Ah bah c'est génial Oh, ça fait plein de jeunes, ça met de la vie, c'est super, etc. » Il y en a d'autres qui vont dire pour qui ils se prennent. Et en fait, moi, j'ai déjà entendu, c'est presque une forme de néocolonialisme, en fait, ce qui se passe à Joigny, dans le sens où c'est des gens qui viennent avec des grandes idées, qui sont presque dogmatiques. Il faut que vous preniez le vélo, il faut que vous mangiez pas de viande, etc., etc. C'est pris par la population comme... Mais vous nous prenez pour qui ? Est-ce que vous nous avez posé la question si on mangeait à blinde de viande ? Est-ce que vous nous avez posé des questions sur est-ce que vous vivez de manière sobre ? Est-ce que vous prenez l'avion ? À quel point vous prenez votre voiture ? Etc. etc. Je pense que la phrase qui ressort, c'est pour qui ils se prennent ces bobos, quoi, en fait. De quel droit, en fait, ils vont nous apprendre la vie alors qu'en fait... On les a pas attendus avant de vivre, quoi. Et on avait une manière de faire et apprenez à nous connaître avant de nous juger, peut-être.
À la fin des années 2010, cette question de l'entre-soi social au sein des groupes écologistes est devenue une question que la presse écolo, mais aussi les groupes militants eux-mêmes, se sont de plus en plus posés.
Adrien Mallier, sociologue.
Moi, j'ai notamment enquêté sur des groupes locaux du mouvement Alternatiba en banlieue parisienne au lendemain de la COP21, en gros en 2016, 2017, 2018. Et ces groupes se posaient la question de savoir comment est-ce qu'on sort de notre entre-soi et comment est-ce qu'on arrive à toucher, c'est le mot qu'ils emploient, les classes populaires. D'autant plus qu'on se situait dans des villes à dominante populaire de la banlieue nord parisienne, et donc que ces militants et militantes percevaient bien que une grande partie de leur voisinage ne rejoignait pas leurs actions. Le problème, c'est que l'option qui a été privilégiée par ces groupes, ça a souvent été une option sensibilisatrice, qui reproduit un petit peu ce que font les politiques publiques, et ça a pas mieux marché que les initiatives des politiques publiques. Le taux de participation était faible là aussi. Il y a quelques personnes qui sont venues, qui se sont associées à des projets, par exemple d'épicerie coopérative. Mais ça a pas été le succès attendu. Dans une grande partie, à mon avis, c'est parce que les militants écologistes espèrent que les classes populaires les rejoignent et les imitent et leur ressemblent et ne font pas ce travail d'essayer de se décentrer et de comprendre qu'il y a d'autres façons d'aborder les questions environnementales et d'autres façons de construire l'écologie depuis d'autres positions sociales.
Avant d'arriver à Joigny, j'étais dans une autre association qui travaillait sur les questions de participation citoyenne en milieu rural. Du coup, je me suis déplacée dans plusieurs villages, dans plusieurs petites villes, avec une posture de « il faut vraiment que vous recréiez du collectif en fait dans votre village. C'est vraiment, vraiment juste pas possible de voir la fin des services publics dans les communes, la fin des commerces dans les petites communes. » Et donc, nous, moi, je venais avec vraiment une super bonne intention en me disant « j'ai vraiment envie de contribuer ». Et en fait, sans me rendre compte que ce que j'avais appris dans des études n'était pas forcément les spécificités du territoire sur lequel je m'inscrivais, Donc parfois, il y avait déjà des dynamiques collectives en place que je ne voyais pas parce que j'arrivais avec ma vision du monde, un peu mes gros sabots. Nous, on faisait du porte-à-porte à l'époque. Vous devriez discuter ensemble. Alors qu'on s'était même pas renseigné sur est-ce qu'il y avait déjà des assos sur le territoire. Moi, je me suis pris un énorme taquet ce jour-là devant le conseil municipal. J'avais présenté le résultat du porte-à-porte. Donc c'était en gros les activités que les gens aimaient dans leur village, ce qu'ils aimeraient voir de plus, etc. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il y a un élu qui me dit « Mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, vous nous apprenez rien. Et en plus de ça, votre belle présentation... Peut-être vous avez qu'à monter une boîte de pub à Paris, puis après on en reparlera. » Et donc du coup, ça a été un exemple, moi, qui a été très marquant pour moi. Et en fait, au fur et à mesure des discussions et des mois passants, parce qu'on est resté plusieurs semaines et mois là-bas, ouais, je me suis rendu compte que j'avais une forme, je dirais, de mépris de classe. Et du coup, je sais pas, il y a eu un... Je pense que j'ai eu plein de petits déclics au travers de cette expérience-là. Et quand je suis arrivée à Joigny, du coup, j'avais déjà un autre regard sur comment les choses s'opéraient, en fait, et que c'est pas parce que j'avais lu des choses dans les études que ça allait être pertinent, en fait, dans le territoire.
Nous roulons cette fois 1h30 vers le sud pour arriver à Brosses, un petit village de 278 habitants aux portes du Morvan. C'est ici que Rebecca Corazza s'est installée pour vivre et travailler. Elle ne se revendique pas écolo, elle agit. Et pour cela, elle fabrique du pain bio, mais chut, le bio ici, on ne l'affiche pas.
À la base, le projet, c'était vraiment seulement d'avoir mon activité à moi, que faire un truc avec mes mains et nourrir, parce que j'aime beaucoup manger. Mais... J'avais pas du tout d'envie de convaincre les gens de quoi que ce soit. Mais c'est venu, je crois que c'est venu quand même très vite, parce que j'ai vu les réticences. Je me suis mis à me dire, ah bon, ils sont réticents, je vais essayer de les convaincre que porter telle valeur, c'est quelque chose de juste. Tous ces gens, je disais, locaux, un peu contre le bio, contre les néo-ruraux, du coup, un peu aussi, hein. Je crois que j'ai un peu ce truc, j'aime bien les challenges. Et donc, il y a un peu ce truc de « Ah bon, ils sont réticents ?» Moi, je vais leur faire accepter le truc, mais sans les braquer, quoi. Parce que c'est surtout les gens plus jeunes, les gens de la ville et tout, qui sont sur le bio ici, hein, à la campagne, je pense. Et les autres, ils sont plus sur le local que sur le bio. Donc, je fais du pain au levain dans un four à bois, en utilisant tout ce que je trouve autour de moi, donc des matières premières d'un agriculteur bio, faites de manière assez simple et rudimentaire. Et simple et rudimentaire, c'est un peu ma ligne de conduite, en général, dans mon activité. À la base, c'était pas être un modèle que je voulais, mais c'était plutôt montrer qu'on peut, quoi. Dans le sens où, autour de moi, quand j'ai présenté mon envie de m'installer dans cette campagne paumée, de faire du pain comme ça, et qui coûtera ce prix-là, donc plus cher qu'ailleurs, voilà, on m'a dit « Non, mais c'est improbable, tu peux pas vendre du pain à ce prix-là dans un trou paumé, t'auras jamais assez de clients, tu pourras pas te payer comme il faut. » Donc... Voilà, j'ai fait mes calculs, je me suis dit, non, a priori, autour de moi, je vois bien un minimum de 100 personnes dans une semaine qui seraient prêtes à acheter telle quantité de pain à ce prix-là, s'il est très bon. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas possible, et je vais le faire, et comme ça, ils verront que c'est possible, quoi.
Et hop, encore une heure de voiture sur les petites routes, à travers les forêts et prairies du Morvan. On arrive à la petite ferme, chez Valentine Cuillet.
Donc on est à Melois, qui est un hameau de la commune de Brassy, dans le territoire du Morvan.
Là on est sur un petit chemin.
Ouais. On a repris cette ferme il y a 7 ans. Elle était déjà exploitée par une personne avant nous, qui a eu beaucoup de difficultés, surtout sur la faim, donc on n'a pas récupéré un outil de travail en très bon état, donc il y a eu pas mal de travail de remise en route.
Et on venait de l'étranger, on revenait de l'étranger parce que mon mari est italien et on ne connaissait pas la réputation qu'avait la ferme. Et heureusement, en fait, qu'on ne savait pas. On n'aurait peut-être pas repris si on savait que bah, voilà, les gens avaient un a priori en disant ça ne va pas marcher parce que ça n'a pas marché avant, etc. On travaille en agriculture bio. Ben, on produit des légumes, donc une bonne trentaine de variétés. Enfin, en gros, tout le panel de légumes de saison. Donc une partie en plein champ, donc c'est ce qui est dehors, et une partie sous serre. Bon, les serres étant vraiment, vraiment indispensables et pour avoir une continuité sur l'année, quoi. On a un marché en fin d'après-midi, donc on vend tout en direct. On a une chance qui est assez incroyable parce que c'est des petits bassins de population. On a une densité d'habitants très faible. Et puis nous, les entre guillemets, avec des gros guillemets, villes les plus proches, c'est Lorme à 1300 habitants et Corbigny à une demi-heure à 1700 habitants. Donc le terme ville est avec des bons guillemets. Mais on arrive à vendre tous nos légumes à moins de 13 km de la ferme. Donc c'est super. Bon, en sachant que c'est vrai que les gens font beaucoup leur jardin dans le secteur, mais ils réussissent jamais tout. Ils sont plus soumis aux aléas climatiques et puis un petit peu moins techniques que nous. Et puis voilà, c'est pas leur travail. Donc il y a toujours des ratés. Bon.
Et alors, qui sont vos clients ?
Surtout des gens pas forcément originaires du Morvan, mais qui habitent ici depuis pas mal d'années. L'été, pas mal de résidences secondaires, un peu de tourisme. Mais sinon, on a vraiment des clients fidèles qui habitent pas loin depuis plusieurs années. Pas mal de jeunes, ouais.
Et vous avez du mal à avoir pour clientèle les gens ici, d'ici ?
Les locaux, ouais. C'est un petit peu plus difficile. Bah, je pense qu'il y a des a priori sur le bio, comme quoi ça va être plus cher, ce qui n'est absolument pas le cas. Enfin, quand je me compare au supermarché, même en local, on est au même prix, voire en dessous, pour une fraîcheur qui est incomparable. Mais voilà, je pense que c'est toute une série d'a priori, parce qu'on a revendiqué dès le démarrage d'être en bio. On avait monté un marché bio sur notre commune et ça a été assez mal pris qu'on prenne cette orientation-là, ou mal compris en tout cas. Donc ça a plutôt joué en notre défaveur, c'est pas grave, on regrette pas d'avoir essayé de le faire, mais je pense qu'il y a des gens qui ne viennent pas juste par principe, quoi, mais qui sont prêts à aller sûrement faire leur course à une demi-heure de route et faire une heure de route et mettre le prix de l'essence en plus pour acheter des légumes qui sont pas en local, quoi. Le surnom de la personne qui était là avant nous, il l'appelait la bio, mais comme terme un peu péjoratif, et je sais que j'ai hérité de ce nom-là. Bon, moi, ça me dérange pas, ça me fait presque rire, quoi. Mais pour eux, c'est un truc de bobo écolo de la ville. On mettait pas forcément le logo au démarrage, on n'affichait pas qu'on était en bio.
Volontairement.
Ouais, volontairement. En se disant, ça va être contre-productif, parce qu'il y a des gens qui ont un a priori en vraiment disant, c'est en bio, on n'y va pas, ça va être trop cher, quoi, ou ça va aucun intérêt.
J'ai vraiment fait du porte-à-porte pour expliquer ma démarche, pour que les gens viennent goûter. Je suis vraiment allée frapper à toutes les portes du village. Et on m'a dit clairement, mais votre truc, de toute façon, c'est un truc pour les Parisiens. Donc,
Rebecca Corazza, boulangère.
De toute façon, vous êtes une Parisienne, en gros. Hein, on m'a cataloguée tout de suite. Alors qu'en fait, j'habitais en région parisienne juste avant d'arriver pour mon projet. Mais j'ai grandi et j'ai passé mon bac à Auxerre, donc à 50 km d'ici. Donc j'avais cet argument encore de dire non, j'ai grandi dans Lyon et je reviens à ma source. Donc j'ai martelé ce truc que je suis quelqu'un de local pour essayer d'être légitime. Et même, alors j'ai un autre boulanger dans le Morvan chez qui j'étais passée avant pour me former, qui disait que c'était que du marketing, que je vendais du pain pour les riches, parce que lui justement fait du pain comme moi, mais à des prix comme le supermarché conventionnel, parce qu'il estime que tout le monde a droit de manger du pain comme ça, mais qui se paye pas, qui en souffre physiquement parce qu'il doit travailler trois fois plus vu qu'il se paye pas. Et donc, qui est dans le sacrifice. Et moi, donc j'explique aussi aux gens que moi, bah non, il n'y a pas de raison d'être dans le sacrifice, que les gens peuvent décider juste d'avoir moins de budget dans leur vie pour des choses accessoires comme les smartphones, comme les baskets, comme les voyages, et peut-être mettre plus d'argent dans leur alimentation. Mais ce n'est pas au boulanger de se sacrifier, ce n'est pas un service public. Les gens ont une responsabilité dans leur... dans leur action de consommateur, donc du coup là ça devient politique en fait.
Bon, moi j'ai travaillé dans le milieu agricole dans plusieurs région de France et aussi à l'étranger, puisque j'ai travaillé 6 ans dans le milieu agricole en Italie.
Valentine Cuillet, maraîchère.
Quand je suis arrivée ici, moi, j'avais aucun a priori sur le territoire, puisque je ne le connaissais pas du tout. J'avais jamais mis les pieds dans le Morvan avant de m'y installer. Et 3 mois après être arrivée, dans un hameau proche, là, je vois un gros tas de plastique qui brûle, donc de 8h30 du matin à 17h, quoi, plastique agricole. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, enfin, on n'en est pas encore là, quoi. Alors qu'on a des filières de retraitement, c'est pas possible, quoi, et c'est pas possible au niveau de l'image agricole qu'on donne de son propre métier, quoi. On utilise une technologie, enfin, le plastique, qui n'est pas quelque chose d'obligatoire, à un moment, on trouve une solution pour que ça soit correct. J'en ai discuté avec le maire de mon village, qui m'a dit que c'était compliqué, que lui intervienne seul, malgré ses pouvoirs de police, parce que un peu de peur, un peu conflit, etc. Donc voilà. Il a quand même eu le courage, voilà, d'aborder la question avec certaines personnes, mais qui ont décrété qu'elles avaient toujours fait comme ça, donc elles allaient continuer à faire comme ça. Donc, c'est parti en conflit. Moi, je ne savais plus quoi faire, mais je trouvais ça intolérable que mes enfants respirent du plastique aussi à l'école. Donc, j'ai demandé l'intervention des gendarmes. Je ne sais pas la fin de l'histoire judiciaire, mais je crois que certains agriculteurs ont eu des auditions devant le procureur de la République et des amendes. Alors, j'ai fait des erreurs, hein. Je pense que j'aurais dû aller plus directement parler avec les personnes concernées.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé parler aux éleveurs ?
Pas directement, non. Ouais. Parce que je les avais déjà vus en groupe, ils étaient très vindicatifs, j'avais un peu peur, il faut le dire. C'est des mêmes milieux aussi extrêmement masculins. Moi, c'est arrivé fréquemment que je me retrouve en réunion agricole à 25 et qu'on soit que 2 filles, quoi. On rentre dans la salle, il n'y a que la moitié des gens qui vous disent bonjour. Je pense qu'à leurs yeux, on n'est pas agriculteurs, on n'est pas des vrais. J'en avais discuté une fois avec un collègue, il me dit « Oui, agricultrice, ouais, t'es pas vraiment agricultrice, plutôt paysanne, quoi. Où est la différence ? J'ai le même statut que toi, hein. »
Quand on est arrivé, c'est vrai que moi je voulais créer du lien aussi avec les agriculteurs du coin. Donc les premières années, j'ai demandé à la mairie qu'un listing d'agriculteurs qui ont des terres sur la commune. Donc en tout, il y avait à peu près 25 personnes, je pense, dans le listing. En leur demandant s'ils avaient de la matière organique pour nous, mais même du broyat de haies, du foin abîmé qu'on pourrait justement valoriser pour pailler quelques cultures, etc. Bon, bien sûr, nous, on ne demandait rien de gratuit, donc on était prêts et à payer des frais matières et des frais de transport. Et à la fin, je les invitais aussi à venir voir ce qu'on faisait, quoi, parce que la ferme a toujours été ouverte aux curieux et aux collègues, quoi. Et on a eu 0 réponse sur 25, quoi, parce que... Je pense que malheureusement, beaucoup avaient l'image de base en disant c'est les écolos du coin qui sont en bio qui regardent pousser 3 carottes, quoi. Il y a quelques curieux dans des villages à côté, quelques éleveurs avec lesquels on a des bons contacts, mais pour beaucoup, voilà, il n'y a que l'élevage bovin qui a une légitimité sur le territoire, quoi. Alors, je pense qu'on a tous à s'apprendre, en fait. C'est des personnes, tous les éleveurs du coin connaissent bien mieux le territoire que moi. Ils sont nés là, j'ai rien à leur apprendre sur la connaissance du Morvan, j'ai à apprendre d'eux, mais je pense qu'ils ont aussi à apprendre sur l'aspect biodiversité, écosystème et puis complémentarité des productions agricoles. En rigolant, on peut dire qu'il faut bien des légumes pour le pot-au-feu, quoi. Enfin, ils veulent pas forcément savoir. J'ai encore eu une petite discussion là au printemps avec quelqu'un qui m'a dit « Mais je ne sais pas d'où vous venez et ce que vous avez fait avant, mais... Mais voilà, des bobos écolos comme vous, on en a assez dans le secteur. Si vous pouviez partir tous. » On est allé jusqu'à cette phrase-là. Bon, là, je pense que c'était sur un cas spécifique, quoi. Mais où on a souhaité encore au printemps, une personne assez vindicative souhaiter que mon bassin s'assèche et que j'ai plus assez d'eau pour irriguer mes cultures et que je dégage, quoi. Donc c'est difficile quand on analyse la situation en globale. Après, voilà, nous, ça va globalement très très bien, quoi. On a des clients hyper fidèles, donc le tableau est pas noir du tout, hein, sinon je serais déjà partie et ils auraient gagné, mais ils ont pas gagné.
Il y a 6 ans, quand j'ai commencé, j'étais voisine d'un agriculteur bio. Un des premiers à faire de la farine avec son moulin chez lui, à Meule de Pierre. Donc, il était dans ma rue. Pour moi, c'était logique. C'est-à-dire que si j'étais allée plus loin chercher un meunier professionnel, j'aurais une farine beaucoup plus facile à travailler, bien étudiée, bien régulière. Donc, même si ce n'est pas une farine idéale, et j'ai choisi d'aller chez mon voisin. Et donc, ça amène beaucoup de difficultés dans le travail parce que c'est très irrégulier et donc il faut s'adapter. Mais en même temps, c'est riche parce qu'on apprend justement à jongler avec les aléas et je trouve qu'on devient plus fort de toutes ces difficultés, quoi. Voilà, moi, je préfère avoir le lien avec mon voisin, le voir tous les jours. Il fait partie de mon quotidien, de mon environnement proche et je trouve ça plus logique de servir l'ultra-local. Au kilo, mon pain, le moins cher, il est à 8,20 € depuis 6 ans. Ça n'a pas changé, aucun des prix n'a changé. Chez un boulanger conventionnel, je pense que c'est 4 €, peut-être 4,50 € le kilo. Mais donc, au début, quand les gens arrivaient, voyaient les prix, j'avais vraiment des gens qui faisaient des têtes de personnes choquées en regardant la liste des pains et des prix. Ou alors des petites « Ah bah dis donc !» Ou alors qui s'en vont, qui regardent le prix, qui haussent les sourcils et puis qui s'en vont. Et j'essayais vraiment d'avoir les mots pour pas qu'ils partent et pour leur expliquer, leur faire goûter, j'avais calculé aussi de pouvoir être généreuse, donc je leur offrais un morceau de pain en leur expliquant « Goûtez, gardez-le sur la semaine, vous allez comprendre la différence. » Et aussi, voilà, je leur expliquais très rapidement en quelques phrases en comparant avec ce qu'ils dépensent au supermarché, le prix au kilo d'un paquet de Prince ou d'un paquet de chips, le prix au kilo de mon pain, même le plus cher, qui est beaucoup moins cher qu'un paquet de Prince. Le fait de travailler au four à bois, que c'est pour maintenir un savoir-faire, pour passer ce savoir-faire à ceux qui viendront après moi aussi. On est venu me voir au début, enfin le maire m'avait dit, lui était très accueillant, m'avait dit, vous savez, on parle déjà, hein, alors que les travaux de la ruine dans laquelle j'ai fait mon four et mon habitation, ils n'avaient pas commencé. Et j'étais en repérage et le maire me disait « ça parle déjà, on demande pourquoi une boulangère veut venir s'installer ici alors qu'il y a déjà une boulangerie dans le village d'à côté, on n'a pas besoin de ça, et pourquoi elle vient ici quoi ?» Mais quand on essaye de demander aux gens pourquoi ils disent ça, ils ont aucune explication, c'est juste « on n'a pas besoin de ça, on est très bien, on est tranquille, on a ce qu'il faut, qu'elle aille ailleurs quoi ». Et j'ai l'impression qu'on vient leur voler leur tranquillité. C'est qu'on est en train de critiquer qu'il manque quelque chose dans leur village, quoi. Si on veut y apporter quelque chose. Leur village n'est pas assez bien, on veut le transformer, quoi.
Ce rejet...
Fanny Hugues, sociologue.
Symbolique, mais donc aussi pratique, par le fait de ne pas aller consommer chez des producteurs, des productrices qui peuvent s'être installées. Ça peut être lié à des formes de violence symbolique qui, là, pour le coup, s'exercerait à l'égard... Donc là, moi, je vais parler, par exemple, des modestes économes, où j'ai pu recueillir un extrait d'entretien sur ça, où il s'agit d'une éleveuse qui élève des vaches à lait, qui a aussi un superbe potager et qui élève aussi des volailles. Et puis, elle me dit « on n'a pas besoin d'être original pour être bio ». Et donc, en fait, elle va en quelque sorte délégitimer les pratiques bio des néo-paysans et paysannes du coin. Elle va me dire, j'ai déjà vu leur potager. Vraiment, il n'y a rien dedans par rapport au mien. Leurs volailles sont pas meilleures que les miennes. Donc, il y a vraiment une comparaison. Alors même que elle, son potager et ses volailles sont faites en bio et qu'elle-même, son exploitation de vaches laitières est bio. Et donc, elle va opposer, en fait, les gens traditionnels auxquels elle s'affilie, des originaux auxquels elle affilie, donc ces néo-paysans, paysannes. Et donc, de la même manière, j'ai pu l'interpréter comme une manière de mettre à distance des normes écologiques agricoles qui sont portées localement par une petite bourgeoisie culturelle locale qui s'installe et qui met en avant des normes alternatives et qui vont potentiellement, donc ça c'est des hypothèses aussi, mais qui pourraient fragiliser la position sociale de ces modestes économes-là. Et peut-être donc cette éleveuse dont je parle, en fait...
y a aussi pour elle, en tenant ces propos-là et en n'ayant pas, en n'allant pas s'approvisionner chez ces personnes-là, une forme de recherche d'affirmation de sa position sociale vis-à-vis de ses producteurs et ses productrices, dont certaines enquêtes ont montré qu'ils étaient diplômés, souvent en bac plus 5. Donc très éloignés socialement de cette femme qui est diplômée d'un brevet agricole.
Pourtant, il arrive parfois que des militants aux valeurs écologiques clairement affichées parviennent à s'intégrer dans un territoire rural sans susciter le rejet ou la méfiance que Judith, Rebecca et Valentine ont pu rencontrer. Ce sont eux que la sociologue Geneviève Pruvot tente d'approcher.
Mardi 5 mars 2013. Trouver le chemin de la yourte. 9h30. Nulle indication de lieu. Nulle pancarte à la sortie du village des Valondes, nul écriteau à l'entrée d'un chemin de terre. Perdu, je finis par appeler Florian et Myriam sur leur portable, qui me renseignent à nouveau. Je débouche sur un champ à l'herbe rase. D'un côté, des bûches sont alignées et des rondins attendent d'être coupés, non loin d'une caravane. Au fond du champ, entre broussailles et herbes hautes, sont entreposés des tracteurs et d'anciennes machines agricoles que je suis bien en peine d'identifier. Je me gare à côté de deux voitures. La yourte est plus loin. Je troque mes tennis contre des bottes en plastique, anticipant la suite du chemin. Un sentier longe un verger où paissent des moutons. Je traverse un sous-bois humide avant d'arriver dans une clairière où j'aperçois enfin une yourte, recouverte d'une toile imperméable écrue avec des traînées vertes délavées de mousse végétale posées sur un lit de pierre. C'est encore l'hiver dans la région. Les hautes futaies et les arbustes sont nus. Florian m'attend dehors en fumant une cigarette. Il m'accueille avec un grand sourire, les yeux pétillants sous son petit bonnet en laine, vêtu d'un pull de marin sous une doudoune, d'un jean troué au genou et de bottes en plastique jaune. Tu as eu du mal à trouver. Myriam arrive à ce moment-là, tout sourire également, en poussant une brouette. Quelques instants plus tard, nous voici installés dans leur grand salon, selon les mots de Florian, à prendre un café assis sur de larges rondins autour d'une table en bois de palette. Un rayon de soleil perce les nuages et illumine la yourte dont l'ouverture est orientée plein est. La subsistance au quotidien, compter ce qui compte. Geneviève Pruvot.
Geneviève Pruvot nous emmène un peu plus loin dans le militantisme écologique quand il s'imbrique de manière intime au travail et à la vie quotidienne. Elle nous raconte sa rencontre avec Florian et Myriam qui ont 36 et 38 ans. Ils sont boulangers paysans et vivent en yourte sur 8 hectares de terres acquises, louées ou prêtées.
Il n'y a pas que Florian et Myriam qui habitent dans cette yourte. Il y a aussi, ils ont une petite fille de 3 ans. Et aussi, ce qui n'est pas fréquent à l'échelle domestique, hein, 2 vaches, 2 chèvres, 4 moutons, 12 ruches. 2 tracteurs, un qui marche, puis un pour pièce, et puis plein d'outils, une cinquantaine de poules, et puis un énorme aussi potager. Et puis, comme si c'était pas suffisant, ils vivent pas tout seuls, ils sont aussi évidemment en lien très étroit avec une cinquantaine de copains qui habitent tout près. Ce que je viens de vous décrire, c'est une maisonnée. Une maisonnée au sens où l'entendent, hein, les anthropologues, qui voit plutôt les maisonnées comme un groupe de cohabitants sur un même lieu, des êtres humains et des non-humains, ensemble vont œuvrer à la subsistance commune. Le travail, en fait, que fournissent les personnes dans cette maisonnée, c'est pas nécessairement de travailler au dehors pour gagner de l'argent, mais c'est aussi de faire en sorte que chacun, chacune concourt au fait de pourvoir aux besoins de cette maisonnée en nature, en s'appuyant sur les ressources de ce milieu de vie-là en particulier.
Mercredi 6 mars 2013. Nourrir les poules et contempler les agneaux. 9h54. Lola veut porter le seau d'épluchure toute seule, mais c'est à l'évidence trop lourd. Myriam le prend à sa place et la laisse courir sur le sentier. Elle entre dans le quadrilatère du poulailler en m'expliquant qu'il y a un espace pour les canards et 3 autres pour différentes races de poules qu'elle ne mélange pas. Elle commence par donner du pain, des invendus du marché, aux canards. Tiens, il y en a un qui boite. Myriam se demande si ce ne serait pas le renard, sans plus de commentaires.
Elle isole le canard blessé pour qu'il se refasse une santé et donne le seau d'épluchure aux poules et le pain aux lapins dans le clapier avec l'aide de Lola. 10h19, Florian arrive en courant, les yeux brillants. « Venez, venez, l'agneau est né !» Selon lui, l'agneau a moins d'une heure. On reste 10 minutes à causer, à contempler l'agnelet sous toutes ses facettes. Le temps se distend. Le soleil nous réchauffe. L'herbe du verger est magnifiquement rase. Les moutons sont placides. L'agneau, déjà debout. Les moutons, on les a achetés dès qu'on s'est installés ensemble. Ils sont juste là pour le gazon. Et pour la tonte de la laine, tu fais comment ? Je les tonds moi-même, c'est sympa. Je garde une partie de la laine pour combler les petits trous de la yourte.
Pour eux, faire ce travail de boulanger paysan en habitat léger, qui fait du pain au levain, à la main, avec du au feu de bois, et puis qui cherche à pourvoir à ses besoins à peu près neuf mois sur douze, y compris énergétique, c'est faire une démonstration en direct, in vivo, que c'est possible et que ça donne de l'abondance. Ils n'ont pas hérité de terre. Ils ont dû les acheter, ils ont fait des petits boulots salariés qui leur a permis, parcelle par parcelle, d'acheter des terres. Ils n'étaient pas boulangers ni paysans. Ils ont réussi à s'entreformer les uns les autres, alors qu'ils avaient été dépourvus en fait de ce savoir-faire. Ils n'étaient pas du tout alternatifs au départ. Ça a été une vraie conversion. Donc en fait, c'était pour moi un exemple assez intéressant de personnes qui ne sont pas des enfants de Bamakoul, qui sont pas des personnes qui gagneraient des 1000 et des 100 et puis qui auraient décidé de se reconvertir en ayant eu un grand capital. Et donc, ils illustraient en fait une possibilité d'alternative à portée de main.
Quand je suis arrivée, j'ai juste dit je suis boulangère.
Rebecca Corazza.
Justement, je vais construire un four à bois et faire mon habitation, point. J'ai pas du tout mis en avant le côté écolo, même si ensuite dans mon chantier qui a permis de créer du lien avec le village quand même, parce qu'il a duré assez longtemps que j'étais tous les jours sur le chantier et que c'est moi qui menais principalement les travaux avec des artisans aussi. Donc les gens qui venaient voir aussi, je leur expliquais mes choix aussi. Et donc, j'imagine qu'on a tout de suite compris que j'étais écolo, quoi, parce que je choisis d'utiliser du bois pour les portes et pas du plastique, même si ça coûte plus cher. Oui, je fais l'isolation du toit en chanvre et pas en, je sais plus ce qu'on utilise, en laine de verre. Et donc, j'ai expliqué à chaque étape où les gens venaient voir un peu le chantier, pourquoi je faisais ça comme ça. Et tout au long de mon installation, j'ai eu beaucoup d'interactions avec tous les gens du village. Soit je les sollicitais pour un outil, soit pour un conseil, que ce soit le cantonnier quand il passait sur la place, les voisins, les agriculteurs. Donc d'avoir du lien avec tout le monde, de solliciter les gens pour leur expertise, leur savoir-faire, leur expérience du village, de la vie dans le village, de la construction d'une maison dans le village, etc. Ça m'a permis quand même de me faire accepter beaucoup mieux que d'arriver parce que on m'a aussi expliqué un peu que c'était ça qu'on n'aimait pas chez les gens qui arrivaient dans le village. C'est des gens qui arrivent qui sont en totale déconnexion avec leur village, ils sont dans leur maison enfermés et ils consomment une partie du village comme ça, je sais pas comment, c'est un peu ça, ils viennent profiter du village mais ils n'y apportent rien, ils sont pas d'ici en fait quoi.
Alors moi j'ai fait plein de terrains d'enquête dans des lieux différents avec des niveaux d'acceptation de ces alternatives très différents. Et donc, je veux pas... Enfin, c'est compliqué de généraliser parce que parfois, d'un village à l'autre, la situation change. Un point très important, c'est que dans toutes les alternatives qu'on réussit à s'implanter sans que la population locale soit dans le rejet, il y avait beaucoup de personnes du cru, donc du coin, des vieilles familles, des gens issus de ces familles-là qui était motrice, faisait partie du groupe moteur et hyper accueillante. Et donc, ça permettait, de toute manière, ça donnait de facto immédiatement des accès à la terre, des tas d'accès aussi à tout un réseau de parentèle élargie. Et donc, pour moi, il y a la félicité, les conditions de félicité, c'est aussi l'engagement des gens du cru. L'autre truc que j'ai pu observer, c'est des formes de seuil. Il y a un moment donné où
il y a tellement de gens qui viennent d'ailleurs que la population locale se sent complètement envahie. Et donc là, il y a quelque chose autour du maintien d'espaces où tout type de population se croise. Et c'est vrai que des épiceries, des cafés, moi, le café du coin de Valonde, franchement, il n'y a aucun indice d'alternativité dedans. Il n'est d'ailleurs pas tenu par des alternatifs. C'est vraiment le café du coin. Et c'est le gage, en fait, aussi, que le gros propriétaire foncier qui va prendre son café le samedi matin va venir, l'ouvrier qui bosse à l'usine ira le samedi matin, parce qu'il a pas, il n'est pas étiqueté tiers-lieu, quoi.
Vendredi 8 mars 2013, activisme au quotidien. 12h29, commence le façonnage, autrement dit la confection de la boule de pain, plus ou moins ronde ou longue. Myriam et Florian façonnent chacun de leur côté, en pesant chaque boule, puisque la vente se fait au kilo. J'en profite pour poser la question du militantisme syndical. Florian me dit qu'il est à la conf. Je n'ai pas le temps de rebondir qu'il évoque leur mode d'installation comme une forme d'activisme. Ceux d'en bas râlent, mais ils râlent pas pour changer le système. Pour moi, la plus belle forme de politique est d'écraser mes voisins qui ont des fermes de 5 millions d'euros sous perfusion de la PAC. Ça, tu vois, ça sera une grosse victoire. Car tout le monde cède à l'argent. Même les gens qui pensent comme nous.
Le résultat de mon enquête, c'est quand même de dire que ça coûte pas cher. C'est ça qui est impressionnant. Ça coûte pas cher leur mode de vie.
Geneviève Pruvot.
Et pourtant, c'est pas approprié par des populations qui sont, qui pourraient précisément se dire « Ah bah, super, demain je m'installe. » Parce qu'en fait, acheter un terrain 5000 euros, une yourte ou une cabane qu'on fabrique soi-même, et au max, vous avez 8000 euros d'investissement, et puis en fait, ça défie toute concurrence par rapport à louer un appart. Et donc, pourquoi le pas n'est pas franchi? C'est une question énorme. Et en fait, les entretiens sont assez éloquents là-dessus. Certains disent, bah voilà, nous, on peut prendre la tangente, parce qu'on a connu la société de consommation d'abondance. On y est arrivé, en fait. On a pu avoir des bons métiers. Nos parents ont plutôt bien gagné leur vie. On n'a pas eu de privation. Et nous, ce modèle-là, on peut d'autant plus le critiquer, ou s'en écarter, qu'on sait qu'il est à portée de main. Donc la démarche d'ascension sociale, ils peuvent s'asseoir dessus, en quelque sorte. Donc ça, c'est un premier frein, je pense, énorme.
La mobilisation pour le climat doit se poser la question des classes sociales.
Adrien Mallier, sociologue.
L'enjeu, il me semble, c'est d'arriver à faire en sorte que cette écologie populaire, ce ne soit pas juste une écologie bourgeoise qui cherche à être inclusive avec les classes populaires. Il me semble qu'il faut arriver à refonder l'écologie, refonder ses préoccupations, refonder la compréhension qu'on a de ce que c'est qu'une conscience environnementale, notamment pour être attentif et attentive à la façon dont l'écologie, c'est aussi une question matérielle du quotidien qui impacte la qualité de vie des classes populaires, et ne pas s'attendre à ce que finalement les classes populaires imitent ou se convertissent à une écologie situé socialement au sein de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie culturelle, mais voilà, de faire ce pas de côté pour se décentrer de la part des militants écologistes. Il me semble qu'un des axes de réinvention de cette écologie depuis les classes populaires et au service des classes populaires, ce serait notamment de construire sur le sentiment d'injustice et de politiser ce sentiment d'injustice au sein des classes populaires, qui bien souvent se rendent bien compte qu'elles finalement polluent moins, subissent davantage l'exposition aux pollutions et aux dégradations environnementales, mais aussi ont à gagner en fait une autre organisation sociale qui respecterait à la fois davantage les écosystèmes et les humains. Et donc, voilà, je pense que politiser le sentiment d'injustice depuis l'écologie, ça devrait être une tâche du mouvement écologiste, pour essayer de se refonder et de fonder un mouvement politique qui n'exige pas des classes populaires qu'elles se convertissent à autre chose, mais plutôt qu'elles se politisent dans leur intérêt.
J'avais envie de prouver, je pense un peu, que c'était possible de faire avec que ce qu'on a autour de soi. Réfléchir à ce qu'on peut faire avec ce qu'on a autour de soi, plutôt que de partir de l'idée de vouloir faire un truc précis et d'aller chercher ailleurs tout ce qu'il faut pour faire ce truc. J'essaie de travailler avec le moins de choses possible, le moins de d'avoir des, comment dire, une organisation simple qui demande pas trop de trajet, pas de logistique. Pareil dans mon atelier, j'ai un four à bois en pierre, des bacs dans lesquels je pétris, des sacs de farine, une brosse, voilà. Un exemple, c'est que j'ai jamais voulu acheter de pelle à farine. C'est débile, ça peut paraître débile. C'est une pelle en métal qu'on appelle une main et qui sert juste à aller chercher la farine dans le sac. Avoir un objet pour une utilisation, je trouve ça superflu. J'aime pas le superflu. Voilà. Ouais, pas de gâchis, pas de dépenses pour rien. C'est peut-être un truc que je tiens de ma grand-mère, je me demande des fois, qui était fille de maraîcher, qui avait fait l'école, qu'on appelait ça l'école ménagère, je crois. Et quand j'ai lu ses cahiers, je me disais, ça ressemble un peu à la logique que j'ai. Un mouvement doit être réfléchi et pas, on ne fait pas deux mouvements pour une tâche. On économise, ouais, on est dans l'écologie, quoi, dans l'économie des mouvements, des matériaux, des objets, tout ça. Et quand j'ai besoin de quelque chose en général, que ce soit en perso ou en pro, j'essaye d'analyser toutes les ressources déjà existantes, les trajets déjà existants, les personnes, les compétences. Et je sollicite beaucoup les gens pour qu'il n'y ait pas de gâchis là-dedans non plus. Je sais que telle voisine travaille à Auxerre. Si un jour j'ai besoin de quelque chose qui n'est que à Auxerre, je vais aller la solliciter pour savoir si elle ne peut pas me dépanner. Plutôt que d'aller moi faire le trajet. Alors, moi, pareil, quand je fais quelque chose, je pousse les gens à me solliciter parce que j'ai mon four qui est chaud et si quelqu'un veut l'utiliser, bah, ça ne me coûte rien. Donc, ouais, j'aime bien qu'on me sollicite aussi quand je peux, j'aide. Je trouve que c'est bien pour tout le monde. Y a des actions qu'on fait parce qu'on a, du coup, on a monté un café associatif qui se passe devant le fournil sur la place du village. On essaye de faire des choses justement vraiment très simples, ouvertes à tous et pas, pour vraiment rassembler toutes sortes de populations. Donc c'est aussi ce que j'essaye de faire avec le fournil. Et que ça, on voit bien que ça ramène toujours le même genre de personnes, des gens déjà convaincus. Mais de rares fois, il va y avoir une personne comme ça. Je veux dire que c'est très lent, il va y avoir une personne un jour qui va faire le mouvement de venir. Venir voir quand même ce qu'on fait. Et du coup, c'est hyper gratifiant, c'est hyper encourageant, mais c'est quand même très, très long et très, très dur.
Jeudi 4 juillet 2013, réflexion sur la conf et le système agricole. Florian se rend tous les mois à la conf. C'est un engagement assez lourd, car les réunions sont la veille du jour du pain, où il doit se lever à 6 heures. La majorité des nouveaux venus au syndicat sont des cotisants solidaires comme Florian, qui ne voulait surtout pas aller à la FNSEA. Le problème, c'est que les jeunes forment un groupe à part. 99% sont en bio et la moitié monte des projets atypiques, alors que le reste des adhérents de la conf, en tout cas dans sa section, ne fait pas du tout du bio une priorité. Voici ce qu'il me dit en substance. Le combat des anciens, c'est d'aller dans la rue pour défendre le prix du lait et du porc. Nous, on a été très clairs. On leur a dit « Vous nous trouverez à Notre-Dame-des-Landes, à des manifs pour l'accès au foncier et le partage des exploitations de 100 hectares, contre les agris qui gardent leurs terres non cultivées et empêchent les jeunes de s'installer. Mais vous ne nous trouverez pas à des manifs pour l'augmentation des subventions de la PAC. On est contre. » Ils hallucinaient. Du coup, nous, les jeunes, on emmerde la conf parce qu'on n'est pas du tout sur la même ligne. Pendant des mois, on a dit aux réunions qu'il fallait qu'on aille faire un tour à Notre-Dame-des-Landes. La conf n'a pas voulu se positionner. Les anciens nous disaient que c'est trop loin, mais c'était une fausse excuse. Le truc, c'est qu'ils ne veulent pas être associés au mouvement punk, à la rébellion. En même temps, j'ai pas trouvé le temps de foutre les pieds à la ZAD.
leur militantisme qui se fait principalement à partir du domicile et de ce qu'ils peuvent vendre sur des marchés ou d'un engagement très local, c'est de pouvoir, avec leur cas, décliner toute une série d'engagements sans les hiérarchiser. C'est-à-dire, ils votent, voilà, donc ils vont voter comme plein de gens. Il y a une énorme manif, type gilet jaune, ils vont y aller. Mais il y a aussi le syndicalisme paysan qui est très important. Mais il y a aussi le fait de tous les jours de marché d'être là, à l'heure, de servir un pain qui n'est pas trop cher, aussi bien à des personnes du coin qui n'ont pas beaucoup de sous que à des touristes hein, qui viennent chercher du bon pain, qui répondent à leurs critères. Et aussi accueillir et présenter, mais toujours en étant disponible, leur alternative de chez eux. Et donc, en fait, cette façon de militer qui est continue, en fait, qui est 7 jours sur 7, en fait, qui est constante, c'est très exigeant et c'est très typique de l'écologie radicale. C'est un engagement total, en fait. On revient toujours sur la même question. Moi, je suis sociologue du travail. Et la démocratie, enfin, la hiérarchie sociale, elle est fondée sur la division du travail. Selon votre place dans la division du travail, vous n'êtes pas doté du même prestige, vous n'êtes pas doté du même salaire et pas doté des mêmes chances d'ascension et de circulation dans le monde social. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Soit on dit, on donne à tout le monde la possibilité de monter dans l'ascenseur social. Sauf que ça veut dire qu'il en reste, qu'ils restent dans cette division du travail avec, entre guillemets, des basses tâches. Et moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup trouvé dans ces maisonnées, c'est une critique radicale, enfin en tout cas des tentatives, parce que ça marche évidemment pas du tout autant que ces maisonnées le voudraient, mais c'est vraiment une tentative de sortir de la division du travail entre basse tâche et haute tâche, et du coup de partir sur la question très claire que qu'il faut acquérir beaucoup plus de polyvalence en fait aussi pour sortir de l'extrême division du travail dans laquelle on est rentré. Tous les peuples ne se sont pas organisés depuis l'aube de l'humanité sur la division internationale du travail extrême que nous connaissons en société de production et de consommation. Beaucoup, beaucoup de populations étaient hyper polyvalentes. Et je dirais même que c'est l'exception en fait. Le régime d'extrême division du travail dans lequel on vit, il a 100 ans. C'est juste un confetti à l'échelle de ce que l'humanité a pu faire, qui s'est vraiment organisé sur la polyvalence, pluriactivité, polyculture élevage, paysan artisan. Moi, j'ai que des mots doubles qui me viennent à l'esprit, et c'est très étrange de n'avoir que des ingénieurs, que des élus ou que des hommes ou des femmes politiques. C'est bizarre comme organisation. Et ça, par contre, c'est source de hiérarchie sociale et donc impossibilité de démocratisation.
Merci à Judith Aynès, Jean-Marc Marcel, Adrien Mallier, Fanny Hugues, Rebecca Corazza, Valentine Cuillet et Geneviève Prevot. Mention spéciale à la précieuse Marine Vial aux miches délicieuses, à Kylian, Odile Tambras, Nadège Hack et Brieux Michou. Lecture, Élodie Hubert. Prise de son, Benjamin Thuot, Nicolas Mathias, Manon Houssin, Geoffrey Marianne, Xavier Lévesque. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Annelise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marivonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Écologie et résistance. Épisode 3, Fin du monde, fin du mois, même combat. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Cécile Lafont.